Pour Sodome et Gomorrhe 1, rendez-vous avait été pris à l'Olympia du 18 au 22 mars. Pourquoi l'Olympia? Ce n'est certes pas un lieu emblématique de Marcel Proust, il n'est pas absolument absent de son œuvre, mais il apparaît à la marge. Dans le côté de Guermantes, Robert évoque le nom en pensée à propos des relations de Rachel avec d'anciennes collègues Estapin, Lucienne et Germaine, mais comme taverne, avant de citer les abords de l'Olympia. Dans le temps retrouvé, un barbeau cite la dame qui tient le chalet de nécessité un peu plus bas que l'Olympia, marraine du Grand Julot. Et Charlus accuse une autre petite frappe de se faire donner du pèse devant l'Olympia. C'est léger, mais quand, avec son équipe, il avait dû choisir des espaces. Fabrice avait dit qu'il voulait de la variété, et c'est ce nom qui le conduisit aux variétés et à une salle qui les symbolise. Décidément, les choix fabriciens tenaient à peu de choses. L'adhésion des successeurs de Bruno Cocatrix, historique maître des lieux, avait été immédiate. Le projet calé et les dates fixées entre les récitals habituels. L'Olympia croyait avoir tout vu depuis que la salle de spectacle avait remplacé des montagnes russes en bois, de la Goulue aux élus de la Starac, en passant par Mistinguett, Piaf et Vartan, de Brel à Hallyday, en passant par Bécaud, qui y chanta 33 fois. Allait-il, lieu mythique des yéyés, connaître la même folie avec des brutes trépignantes qui allaient briser des sièges? Fabrice s'apprêtait à mettre ses pas dans ceux des copains avec « Salut les Proustiens ». Pour ne pas avoir à se fatiguer et convaincu qu'on n'est jamais mieux protégé de la foule qu'au milieu d'elle, il prit ses quartiers à l'hôtel Scribe, de l'autre côté de la place de l'Opéra. Dès le début, Fabrice avait songé à des séances courtes d'environ 1 heure. Il s'était dit que le public de l'Olympia serait sûrement réticent à rester longtemps assis à l'écouter. Il n'avait pas tort, mais n'avait pas pensé que la salle importe peu pour les aficionados. Des moines renonceraient-ils à entendre la parole de Dieu si elle n'était accessible que dans une maison de passe? Des fanas de boxe n'iraient-ils pas assister à un combat s'il était organisé dans une bibliothèque? Eh bien de même, les amoureux de Proust auraient accepté la damnation pour accéder à ce paradis verbal et se seraient rendus dans une fête foraine si nécessaire. Il y avait une autre modification, et de taille. Le spectacle serait payant. Jusqu'alors, les propriétaires des lieux retenus avaient pris en charge l'ensemble des frais de l'événement, la Sempac par des intérêts, le Grand Hôtel par esprit de promotion, la municipalité de Créteil par militantisme et le groupe Lagardère par goût de l'initiative. Le music hall des Grands Boulevards appartenait, lui, à Vivendi Universal depuis le tournant du siècle, et son statut interdisait toute utilisation à titre gracieux. Fabrice l'ignorait, mais il était trop tard pour trouver un nouvel emplacement. Et au fond, il ne détestait pas l'idée qu'il fallût payer pour l'écouter, avec d'autant plus de sérénité qu'il ne touchait pas un centime. Indice intéressant de la passion pour Proust. Il se souvenait d'avoir payé 200 € pour l'une des plus récentes des tournées d'adieu d'Aznavour. Il obtint qu'aucun des 1 500 fauteuils rouges ne coûta plus de 15 € par séance. 23 pour 4, 27 pour l'ensemble des 5 séances en matinée et 4 en soirée. Cette session n'avait pas besoin d'être plus longue, car elle ne couvrait que le premier des quatre chapitres de Sodome et Gomorre. L'Olympia acquiesça. Restait au public de dire s'il suivait ou pas. Pour la première matinée, en ce troisième mercredi de mars, la réponse fut lumineuse. La file d'attente encombrait le trottoir du boulevard dès le matin pour une séance annoncée à 15h. Le printemps était à l'heure et les tenues légères. À midi, il n'y avait plus un strapontin disponible. Assuré d'avoir ses places réservées, le petit noyau au complet prit le temps de déjeuner au Café de la Paix, à l'angle des Capucines et de la place de l'Opéra, en hommage à Saint-Loup qui y soupe avec le duc d'Uzès et le prince d'Orléans. Et ses membres étaient les fidèles, les apôtres, le premier cercle, espérant n'être jamais le dernier carré du héros. Ils auraient, sans protester, accepté le qualificatif de Fabrice Fan Club. Comme ils avaient atteint une notoriété certaine, l'établissement les installa à la table d'hôte, espace exclusif, avec ses chaises dorées et ses deux énormes lampes aux abat-jour crème, surmontant des personnages également dorés, ils choisirent le menu avant-spectacle. À l'heure prévue, arrivés à l'Olympia, ils s'installèrent au premier rang de l'orchestre. Fabrice Lucchini était assis au 23e, et comme on lui fit remarquer qu'il se montrait fort discret, et il répondit, étonnamment humble, « On entend mieux ». Pour une pièce qui en vaut la peine. À la sortie, le comédien habitué au long texte répondit à une interview sur la prestation de cet autre Fabrice. « Une mémoire d'éléphant, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la mémoire sensorielle, et celui-là échouerait s'il ne sentait pas son texte. C'est admirable, je suis bouleversé. » D'autres personnes connues allaient poser leur auguste séant à l'Olympia, mais les joies du name-dropping avaient été épuisées. Quel chemin! Il était presque commun de venir se frotter à Proust. Au milieu des nouveaux spectateurs, aimable mélange, des lettrés aux teenagers, les habitués découvrirent une nouveauté. Jusque-là, toutes les séances s'étaient déroulées avec la lumière des salles allumées. Et voilà que selon les règles des salles de spectacle, l'obscurité recouvrait le public. Le rideau s'ouvrit. Des projecteurs illuminèrent le fond noir sur lequel s'incrustèrent les mots d'exergue de l'œuvre qui allait être jouée. Première apparition des hommes-femmes, descendants de ceux des habitants de Sodome qui furent épargnés par le feu du ciel. La femme aura Gomorre et l'homme aura Sodome. Alfred de Vigny. La scène fut à son tour éclairée. Et Fabrice, venu à pied de son hôtel, sortit des coulisses, s'avança jusqu'au proscénium et entama le moins long de ses marathons. Le timbre de sa voix, comme à l'accoutumée, était d'une limpidité étrange, appropriée et froide.